voix nue. Cette semaine, Isabelle Lasserre rencontre Hubert Védrine. Ce soir, l'homme qui parle à l'oreille des présidents.
Bonsoir Hubert Védrine. Vous êtes toujours influent dans la politique étrangère française. Vous communiquiez avec François Hollande, à qui vous faisiez part de votre expérience et de vos idées. Vous avez écrit des rapports pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy. Vous êtes aussi écouté par Emmanuel Macron. Vous êtes devenu l'homme qui parle à l'oreille des présidents ?
C'est pas mon but, hein. Je l'ai pas fait pour ça. C'est en partie vrai, d'ailleurs en partie exagéré, mais enfin, c'est en partie vrai. Ça s'est passé assez naturellement, c'est-à-dire que à partir du moment où après le parcours Élysée, Quai d'Orsay, donc 19 années au cœur de la vraie machine, pas dans la politique, mais au cœur du vrai pouvoir, j'ai continué à m'exprimer parce que ça m'intéresse. On me pose des questions, je réponds pas tout le temps, mais c'est vrai, je peux pas le cacher, je suis heureux de transmettre ce que j'ai appris grâce à tout ça. J'ai commencé par un très gros livre de 800 pages sur la politique étrangère de François Mitterrand, puis j'ai écrit un peu sur Mitterrand, puis après j'ai fait des atlas avec Boniface, et puis j'ai fait beaucoup d'essais, toujours le même sujet. Le point central, c'est pas une démarche politique, c'est pas lié qu'à Mitterrand d'ailleurs, et c'est pas lié à un parti en particulier, même si j'ai beaucoup aimé tous les dirigeants socialistes que j'ai accompagnés dans tout ce parcours, mais ma démarche est différente. C'est que je suis arrivé à la conviction, moi qui adore mon pays, j'adore l'histoire de France et tout ça, et j'aime pas le roman antinational, on va dire, qui s'est développé depuis, mais quand même, je pense que la France est un pays chimérique.
C'est-à-dire ?
Eh ben, il prend ses désirs pour des réalités, il s'excite pour des concepts creux, il se croit chargé à lui tout seul, par lui-même, d'une sorte de mission universelle. Bon, c'est émouvant, c'est sympathique, c'est parfois vrai, mais en fait, c'est quand même grotesquement exagéré tout ça. Et bon, et comme j'ai connu le monde réel brutalement par la vie dont on a parlé dans ces émissions, vous voyez, le monde réel, les émergents, on l'a vu longtemps avant, la fin du monopole occidental dans la conduite des affaires du monde, pas la fin de la puissance et de la richesse, la fin de l'influence, du pouvoir. J'ai vu tout ça. Donc je suis quand même guidé, à travers ces essais qui peuvent paraître très variés, par cette même idée. J'aime tellement mon pays que j'aimerais qu'il soit plus réaliste. Plus réaliste. Pour aborder mieux pour mieux défendre ce qu'on est, ce qu'on a créé. Les sociétés européennes modernes sont quand même les meilleures de toute l'histoire de l'humanité. Je sais bien qu'il y a des gens mécontents toute la journée, mais si on compare, bon, il y a des choses à perfectionner, sans arrêt. Mais ça se compare à quoi ? Donc, il y a quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, ça me motive. Et l'irréalisme dans le diagnostic et dans les réponses, et le fait qu'on parte comme ça dans des opérations perdues d'avance, ça me motive beaucoup. Mais c'est pas évident d'être réaliste dans un monde irréaliste. Vous savez, on condamne la réelle politique parce que c'est très mal, et moi je me méfie de l'apostrophe l'irréal politique. Donc c'est un peu mon fil conducteur.
On ça, va y revenir.
C'était pas un projet. Et parler au président, tant mieux si les présidents sont intéressés par ce que je raconte. Je parle avec eux volontiers. On me confie. Je veux pas être remis dans la machine, mais on me confie des rapports, des missions, volontiers, très bien, je suis content de travailler pour mon pays. Mais le fil conducteur intellectuel, c'est pas ça.
Alors pourquoi vous avez refusé d'être le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy en 2007 ?
Parce que je voyais pas l'intérêt pour moi, après ce que j'ai vécu, les conditions exceptionnelles de la cohabitation, où j'avais quand même une grande autonomie respectueuse de Chirac et Jospin, mais... Et puis je pensais pas que nous soyons d'accord, ni sur les objectifs, ni sur la politique à mener, ni sur la méthode, ni sur des tas de choses. Mais on s'est pas brouillé, puisqu'il m'a demandé après de faire un rapport que j'ai remis d'ailleurs sur la France et la mondialisation, où là aussi je poursuivais je suis un réformiste, hein, je suis un modéré, j'ai horreur des extrémistes et de l'imbécilité que ça entraîne. Donc déjà là je plaidais pour une réponse combinée en disant la mondialisation, tout le monde s'excite. Il y a des cas où c'est très bien, il faut accepter. Il y a des cas où c'est quand même perturbant, il faut accompagner, corriger, réguler, transformer. Il y a des cas où il faut carrément refuser, en trouvant des points d'appui. Une combinaison. C'est un peu toujours ma réponse, ça. Le président Sarkozy me le demande, il est élu, il est président. Bien sûr, j'accepte de répondre à ça. Comme quand François Hollande m'a demandé de travailler sur faut-il ressortir de l'OTAN. Vous voyez ? Il n'y a pas d'autre raison.
Vous êtes un pragmatique, vous êtes un réaliste, vous êtes un peu kissingerien.
Je respecte énormément Kissinger pour sa puissance intellectuelle, ses analyses historiques. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait quand il était secrétaire d'État, mais enfin, vous connaissez la distinction.
Certains qualifient votre politique étrangère de cynique. Alors ma question, c'est la suivante. Jusqu'où on peut pousser le réalisme aujourd'hui?
Mais pourquoi vous aussi vous mêlez les deux? Moi, je pense que c'est pas du tout la même chose. Alors, le cynisme, pour ceux qui ont gardé un tout petit peu de culture gréco-latine, c'est le fait d'oser parler contre l'opinion dominante à l'origine. Ça n'a rien à voir avec l'usage du mot cynique dans le langage politico-médiatique contemporain. C'est même l'inverse. Ce serait à revendiquer, si les gens comprenaient ce que ça veut dire. Donc, dans le langage courant, vous voulez dire trop réaliste, quoi. Et trop réaliste, ça veut dire quoi? Donc c'est une question de dosage. Mais en fait, c'est utilisé comme une sorte de discrédit moraliste, quoi. Ah, vous êtes cynique, donc pas entendre vos... voyez, mais c'est ridicule. Il pleut, donc je me sens mouillé. Vous êtes cynique, c'est grotesque. Donc je plaide pour réintroduire un peu de culture dans l'usage des mots. Et le terme de cynique ne me gêne pas du tout si on le raccorde donc à sa signification d'origine. Alors, dans le langage, dans l'ambiance très droit de l'homiste, combiné avec le fait que les Occidentaux aient cru tout gagner après la fin de l'URSS, on est les maîtres du monde. Bon, donc on peut s'ingérer où on veut, comme on veut, parce que nos valeurs universelles doivent l'emporter, spontanément, ou à coup de bombe, bon, tout ça. Le fait que j'étais réticent, prudent par rapport à ça, c'est ce groupe-là, en fait, qui a dit « je suis un cynique », c'est un empêcheur de s'ingérer en rond, vous voyez, par rapport à ça. Mais ça ne me gêne pas, la formule, elle est fausse. Moi, je préfère dire que je combats l'irréal politique qui nous a amené dans beaucoup d'impasses et dont j'espère encore que la France se sortira mieux. Parce qu'il faut se projeter maintenant. Hein, quelle sera la position de la France dans les pays européens, plus ou moins ensemble, dans les décennies qui viennent? C'est ça la question.
Et quels sont les principaux défis de la France aujourd'hui? Quelles sont vos principales inquiétudes?
Alors attendez, il y a des défis pour les Occidentaux. Comment s'adapter au fait qu'on n'ait plus le monopole de la puissance, les émergents, etc. Les Américains réagissent par un surcroît d'autorité. Alors, s'ils sont très sophistiqués comme Obama, on va garder le contrôle, mais d'un peu loin. Si c'est des grosses brutes comme Trump, c'est l'inverse. Enfin, il y a un fil conducteur. Ils ont du mal à s'adapter à ça. C'est très vexant pour eux, inquiétant. Les Européens, ils ont été tellement idéalistes. Je dis souvent, c'est méchant, mais c'est pour faire sourire. Ils ont cru dans le monde des bisounours alors qu'ils sont dans Jurassic Park. Et l'ancien ministre allemand Sigmar Gabriel dit maintenant la même chose. Il dit attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Hein? Et on va devenir des véganes et on va finir comme des proies. Bon, ça c'est des défis globaux occidentaux, globaux européens. Et nous, Français, on a les mêmes défis, plus cette espèce d'idée qu'on est le sel de la terre, quoi. Alors, c'est émouvant, l'universalisme. C'est formidable d'avoir des idées qui dépassent le petit groupe auquel vous appartenez. Bien sûr, c'est bien. Mais si l'univers tout entier ne le considère pas comme universel, c'est qu'il y a un bug dans le raisonnement. Donc, il y a un problème de défi intellectuel, mental, philosophique, pour les Français. Le grand public comprend ça très bien. Vous savez, je parle souvent, depuis une quinzaine d'années, je parle quand même plusieurs fois par semaine. Les élites résistent énormément à tout ça. C'est à ça que les élites répliquent par cynisme ou des choses comme ça. C'est idiot, c'est une réponse hors sujet. Donc il faut trouver quelque chose qui fasse l'équilibre entre la prétention un peu ridicule de la France et maintenant inefficace, et puis la déprime. Parce que quand on a trop cru qu'on était un pays exceptionnel, avec un destin spécial, tout ça... On voit que c'est pas tout à fait le cas, on rase les murs après. Donc on n'y est plus rien. On n'est qu'une puissance moyenne. Quand Giscard a dit ça, c'était parfaitement juste. Il y a très peu de puissance, en fait. Il y a 200 pays, mais les puissances, il y en a 15, 20. Puissance moyenne, avec la taille qu'on a, c'est pas mal. Hein. Mais ça a été vécu comme étant une preuve de masochisme, ce qui n'était pas le cas de Giscard d'Estaing. En revanche, maintenant, il y a un masochisme gigantesque qui s'est développé dans ce pays. On est quand même le... selon les grandes enquêtes mondiales des organismes genre Pew, un des pays les plus pessimistes. Alors parfois ça va mieux, mais en gros on est l'endroit où les gens sont plutôt optimistes sur eux, leur famille, leur petit groupe, et pessimistes sur le pays. Il y a une phrase de Sylvain Tesson que j'adore, et qui est de dire « la France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer ». Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas convaincu les... Donc il y a un problème mental. Je pourrais vous faire une réponse politique ou géopolitique classique. faut que la France se réforme, devienne plus compétitive, réussisse à avoir une influence importante en Europe, en rétablissant la confiance avec... Bon, ça, c'est les réponses classiques qu'on peut attendre de moi. Mais je crois qu'en amont, il y a ce blocage-là. Mais je ne sais pas comment débloquer le blocage, justement. Il faut faire un peu de sorcellerie.
Quand on vous entend sur certains sujets, on a parfois l'impression que vous avez un peu glissé à droite. Où est-ce que vous vous situeriez aujourd'hui sur l'échiquier politique?
J'hésite à me situer parce que je ne sais plus très bien qui représente la gauche et qui représente la droite. Tout ça a beaucoup bougé, donc on ne peut pas me poser la question comme si la situation sur le terrain était restée exactement la même. Avec une gauche parfaitement identifiée, une droite parfaitement identifiée. Sur les grands sujets qu'on a évoqués rapidement, il y a des positions complètement différentes au sein de la gauche comme au sein de la droite. Donc j'ai suivi un chemin très, très personnel, comme je ne fais pas ça par stratégie politique. Donc c'est l'enchaînement des idées. J'aime bien cette vie d'intellectuel, je le dis sans prétention, mais on est guidé par l'idée, en fait, vous voyez. On recherche l'idée et son aboutissement. Alors après, ça va dépendre des sujets. Ça dépend des points d'application, mais c'est vrai, par exemple, que sur des grands sujets sensibles, par exemple sur la question migratoire, ça fait très très longtemps que tous les élus de gauche que je connais disent « c'est pas possible, il faut gérer les flux, il faut un peu maîtriser ça ». Si on n'arrive pas à maîtriser, on n'arrivera même plus à sauver le droit d'asile, parce que les gens confondent tout, ils vont tout rejeter. C'était des élus de gauche, énormément. Par contre, les appareils de gauche, ou les journaux de gauche disent l'inverse. Ils disent non, tous les gens qui arrivent ont droit à l'asile. Donc je connais ce débat depuis longtemps. Mais il y a des tas de gens de gauche qui sont pour la régulation des flux, la gestion concertée avec les pays de départ et de transit, pour un Schengen qui marche bien, ça n'a rien de droite en soi, ni de gauche. Donc il y a plein de sujets sensibles où on trouverait ces... Donc moi j'ai pas... Puis il y a belle lurette que j'ai renoncé à me situer sur l'échiquier, est-ce que je suis plutôt là ou là. J'ai une complète liberté maintenant. Et encore une fois, il y a aucune arrière-pensée politique, encore moins politicienne, dans ce que je dis. Et j'apprécie ce moment-là. Et tant qu'on me demande mon avis, je le donne et j'avance et j'écris. Après, on verra bien où ça tombe. Mais j'ai pas cette question. Je me pose pas la question a priori, vous voyez.
Vous êtes macroniste, Hubert Védrine?
Alors, je suis. Moi, j'aime bien Emmanuel Macron. Je l'aime bien, et je devrais pas le dire, mais je trouve que quand il dit des choses insolentes, qui énervent tellement de gens, ça me fait plutôt sourire. Bon, je sais bien que c'est pas ce qu'il faut dire, mais après tout, je crois qu'il est arrivé à la conclusion que si on ménage tout le monde, en étant habile tout le temps, finalement, on fait rien. Bon. Donc j'ai apprécié l'élan qu'il a donné. C'est pas lui qui a détruit le vieux système, Il aurait pas été élu si la gauche s'était pas autodétruite. Et la droite aussi, donc il s'est engouffré là-dedans. Après, je vois bien qu'il y a une difficulté à transformer ça en quelque chose de durable, mais comme j'ai une vie plus internationale que franco-française depuis longtemps, j'ai mesuré qu'il y avait eu un effet extraordinairement positif de Macron, une attente extraordinaire, en disant, finalement, c'est peut-être la personne qui va réussir à réformer ce pays, qui refuse de faire des réformes que les autres ont fait 15 ans avant, bon, mais la résistance est toujours la même, les Français ont... qui se plaignent tout le temps de leur système, ils sont attachés quand même comme des berniques sur le rocher, bon, ils veulent pas que ça change du tout parce qu'ils craignent la suite. Donc je vois bien que même avec tout le talent de Macron, son intelligence extrême, la bonne volonté de tous les dirigeants, j'ai connu tellement de gens de droite et de gauche qui faisaient de leur mieux en fait, que je suis devenu très indulgent. La plupart des gens en veulent à tous les gouvernements quels qu'ils soient, moi c'est plutôt l'inverse en fait. C'est tellement difficile de gouverner dans les démocraties. Donc, je reviens, ça explique un peu ma réponse assez positive, en fait, vous voyez. Où il y a quand même toujours une attente, même si je vois très très bien ce qui marche pas, ce qui marche plus, les énervements. Mais il y a un point qui a pas été débloqué, c'est que les Français continuent à craindre la suite. Vous savez, les bons analystes des sondages disent le basculement, c'est quand les Français ont commencé à craindre que ça aille plus mal pour leurs enfants que pour eux. C'était tellement l'inverse. Depuis l'après-guerre, tellement l'inverse. Là, c'est complètement, ça les a minés complètement. Pourquoi la France plus que d'autres? Bon, ça c'est un autre sujet. J'essaye d'être positif. Et donc, je raisonne plus en termes de sujets. L'écologisation, je suis convaincu que c'est une nécessité vitale et urgente depuis des années. Donc je ne vais pas me dire d'abord est-ce que je suis l'ami de, ou pas de tel ou tel dirigeant, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce domaine, dans un autre. Vous voyez, je procède plutôt par sujet, par urgence. Donc je suis pas du tout, c'est pas du tout des réponses politiques classiques que je vous fais.
Je sais que l'exercice est difficile, mais est-ce que vous pouvez établir un premier bilan de l'action diplomatique de Emmanuel Macron?
Alors moi j'ai trouvé très bien au début qu'il se libère de contraintes excessives qu'on s'était données dans la période qui a commencé avec la rupture décrétée par Sarkozy. Si même lui-même s'est beaucoup corrigé. Donc bon, en tout cas il y a une période d'une vingtaine d'années. Pour les spécialistes du monde diplomatique, dans le jargon, c'est la lutte entre les néoconservateurs d'inspiration américaine et les gaullo-mitterrandiens, mais c'est jamais tout à fait ça, c'est plus compliqué, il y a plein de jonctions entre les deux, enfin, il y a eu toute cette période. Donc, Macron se référant au gaullo-mitterrandisme, condamnant le néoconservatisme, ça m'a plutôt plu comme l'annonce d'une remise en marche d'une politique étrangère française, utile, importante pour nous, pour les Européens, pour tout le monde. Et donc ce qu'il a fait, par exemple, ce qu'il tente en ce moment sur la Russie, je trouve ça très bien. Je trouve ça complètement absurde qu'on ait avec la Russie d'aujourd'hui des rapports beaucoup plus angoissés, inquiets, haineux qu'avec l'URSS. Et quand l'Occident tout entier a négocié avec l'URSS pendant les 30 dernières années de la guerre froide, avec de très bons résultats pour l'Occident et pour la paix, l'URSS était beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus féroce. Capable de choses bien pires que d'assassiner 3-4 espions transfuges à Londres. Ils ont fait 100 fois plus. Donc j'approuve complètement cette tentative dont je connais la difficulté. Et je souhaite que ça marche. C'est un exemple par rapport à ça. En même temps, l'état du monde est tellement chaotique, comme dit Guterres, que même si vous avez une vision assez claire de ce que vous voulez faire, vous êtes rattrapé, vous êtes coincé, il y a des espèces de tornades diplomatiques tout le temps. Mais enfin, le contexte reste le même. Les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Ils doivent s'y adapter intelligemment. Ça suppose que si on veut que, à long terme, préserver nos intérêts et nos valeurs, je n'oppose pas les deux, il faut être très très intelligent avec les émergents. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une espèce de coalition des émergents revanchards par rapport à la situation des Occidentaux. Donc il faut des politiques étrangères, on en a besoin plus que jamais. Politique étrangère, diplomatie, il faut être inventif, il faut être très agile. Il faut agir 3 coups d'avance, il y a des choses comme ça. Il me semble que tout ce que tente Macron va plutôt dans ce sens, et je vois en plus sur la scène politique absolument personne d'autre et qui ait mis une proposition d'ensemble en politique étrangère qui soit différente de ça, ou qui soit intéressante même. Après, on voit le décalage par rapport à la réalité. Par exemple, il a commencé les premiers mois par des discours très pro-européens, même européistes, on va dire, d'inspiration philosophique européiste. Et le soutien qu'il a obtenu est très très limité par rapport à ça, parce que là, notamment l'Allemagne est devenue une puissance de statu quo. Il y a le système actuel tel qu'il est, qui d'ailleurs changera pas beaucoup à l'avenir, est tout à fait optimum pour eux. Mais on peut pas reprocher ça à Macron. Le fait de tenter d'avoir une relation normale avec Trump, sous le nom d'amitié, pourquoi pas? Personne n'arrive à avoir une relation normale. Donc voilà, mais on n'est qu'à mi-parcours et peut-être que tout ça gagnerait à être expliqué, structuré, que les lignes. Mais tout le monde est dans le désarroi. Hein. Vous ne sauriez pas définir aujourd'hui la politique étrangère d'un autre pays européen, par exemple.
Non.
Sur aucun d'entre eux.
Non. Par contre, j'ai envie de vous demander quelles sont les figures internationales, les leaders internationaux aujourd'hui qui vous impressionnent ou dont vous pensez qu'ils ont saisi en partie le sens de l'histoire?
Alors, les Chinois, bien sûr, mais Xi Jinping n'existerait pas sans Deng Xiaoping. Mais il a estimé que le moment était venu d'abandonner les précautions. Une sorte de prudence, de décence, il assume. Et ça détermine quasiment le demi-siècle qui est devant nous, vous voyez. Trump nous dit quelque chose, les Européens sont révulsés par Trump, mais il dit quelque chose de profond, hein. Il y a quand même eu, dans l'aventure de la mondialisation, au bout d'un moment, des classes populaires qui ont décroché, les classes moyennes qui ont décroché, qui se sentaient exclues, écartées, méprisées, et sinon Trump n'existerait pas, par rapport à ça. Poutine est impressionnant. Je l'ai connu un peu en tant que ministre, tout à fait au début. Connu au sens de discuter avec lui. Il est impressionnant, il est à la fois très rationnel, très froid. Alors lui, on pourrait dire cynique au sens courant un peu bêta du terme, mais il est très émotionnel en même temps. Viscéralement, il n'a jamais accepté ce qui s'est passé. Mais il est intéressant. Et je pense que les Européens, et Macron a raison là-dessus, doivent tenter d'avoir une relation avec lui. Difficile, il faut être très prudent. Hein. Il est vraiment intéressant. Je trouve Netanyahou impressionnant. C'est pas lui qui a réunifié les droites israéliennes, c'est Begin, Shamir était entre les deux, mais il a quand même réussi à utiliser de façon incroyable l'influence israélienne aux États-Unis, l'influence du Likoud aux États-Unis, pas du camp de la paix ou des travaillistes, hein, l'influence du Likoud. La conjonction avec les évangélistes, qui ont des positions dingues sur les choses internationales, il est quand même impressionnant. Je parle pas de la façon dont il s'accroche au pouvoir par des tas de ruses pour éviter que la justice le rattrape sur des affaires de corruption. Ça, c'est complètement différent. Ça m'intéresse pas, ça. Mais alors je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, ce qu'il dit, ce qu'il a obtenu. Moi, j'ai vraiment admiré Rabin, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai toujours eu beaucoup d'amis dans le camp de la paix, chez les anciens militaires israéliens. Mais il est quand même impressionnant dans les résultats. Hein. Et même sur le Rwanda, qui est une affaire sensible, indépendamment du fait que je pense que Kagame n'a pas le droit de prétendre que c'est la France qui est responsable des conséquences de la guerre civile qu'il a enclenchée lui-même à partir de 90, pour les résultats, il est impressionnant aujourd'hui. Si vous le comparez aux autres dirigeants africains, c'est phénoménal. D'ailleurs, les autres Africains sont impressionnés. Ils ont un peu peur de lui, mais ils sont aussi impressionnés par les résultats. Donc vous voyez, je réponds pas par affinité, hein. Fini par reconnaissant des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent. C'est ça le drame du monde actuel, c'est qu'il y a des puissances qui savent ce qu'elles veulent. Alors c'est plus ou moins compatible, c'est plus ou moins sympathique, mais ils savent ce qu'ils veulent. Et les Européens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Globalement, les Européens, ils voudraient rester un ensemble protégé par les Américains, l'Alliance Atlantique, et quand Trump émet des doutes, et ils disent pas, bah, bon débarras, on va s'organiser par nous-mêmes, ils disent, par pitié, continuez de nous protéger, s'il vous plaît, bon. Ils ont la trouille de devenir une puissance, vous voyez. Et je dis pas qu'il faut dire une puissance agressive et conquérante, c'est fini, ça c'est effrayant. Mais une puissance qui se fasse respecter, sinon on risque d'être dépendant de l'ensemble des autres. Et ça, c'est une de mes obsessions. Quand je dis que chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler ou de m'exprimer ou d'écrire depuis une quinzaine d'années, mon obsession c'était de combattre le côté chimérique et irréaliste de la France, c'est lié à ça. C'est pour arriver à des conclusions qui soient vraiment opérationnelles pour nous.
Et qu'est-ce que vous pensez de Boris Johnson, Hubert Védrine?
C'est beaucoup trop tôt, mais étant donné qu'il...
Lui aussi, il sait ce qu'il veut, non?
Oui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il a changé plusieurs fois d'objectif. Enfin, il sait ce qu'il veut pour lui. C'était être Premier ministre. Est-ce qu'on sait ce qu'il veut pour la Grande-Bretagne? Bon, on verra. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Il est... Les Anglais qui le connaissent disent qu'il est totalement opportuniste, brillant, intelligent, cultivé et totalement opportuniste. Il peut prendre des positions, justement, intelligentes, non dogmatiques. Opportuniste, ça veut dire saisir les opportunités. Et aujourd'hui, on ne peut pas exclure que le Brexit marche. Probablement, ça commence plutôt par une période de chaos, d'ennui, de déclin. Mais si jamais ça marche, il faut souhaiter pour l'Union européenne qu'elle se soit sérieusement réformée dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, qu'elle ait rétabli le lien avec les peuples européens furieux, et donc que les élites trop prétentieuses sur ce point, trop fermées, aient compris que c'est pas choquant et horrible que les peuples veuillent garder un peu d'identité, de souveraineté, de sécurité et compagnie. Et il y a intérêt à ça, parce que si jamais il y a une sorte de séduction inattendue de la Grande-Bretagne post-Brexit, là, l'Europe serait mal par rapport à ça. Mais moi, je plaide plutôt pour une coopération intelligente entre la Grande-Bretagne de demain et l'Union européenne de demain.
Depuis que vous êtes aux affaires internationales de manière directe ou indirecte, hein, 1981, est-ce que vous avez des certitudes qui ont vacillé ou des sujets sur lesquels vous avez changé d'avis?
Bien sûr, j'ai changé d'avis. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça très jeune, hein. Quand j'organisais des conférences dans mon lycée avec des grands journalistes, et puis quand j'étais en Afghanistan, en voiture, bon, je partageais toutes les illusions françaises. Toutes. Que j'ai appris à dépasser après.
Lesquelles?
Ben, la France a un rôle exceptionnel, j'adorais toute l'histoire de France en bloc, sur la décolonisation, non, parce que grâce à la position de mon père dans l'affaire du Maroc, j'étais très instruit sur justement la distinction entre la colonisation féroce et sanguinaire, et puis des approches plus intelligentes comme Gallieni, Lyoté, bon. Donc j'ai pas eu à faire un cheminement sur moi-même par rapport à ça. je partage pas du tout les conclusions extrémistes genre indigénistes. J'avais intégré ça dans mon raisonnement. Mais l'idée que la France avait un rôle exceptionnel, oui, je croyais tout à fait à ça, sans me poser même la question. L'idée que la construction européenne serait forcément bonne pour nous, parce que la France aurait, je sais pas, par la grâce divine, une influence toujours supérieure à tous les autres, j'ai un peu vécu dans ces visions. Mais ça, c'est avant 80. Parce qu'il y a une grande différence entre parler de l'Europe, aimer l'Europe, et puis parler qu'un Européen. Il n'y a pas d'Européen, il y a un Allemand, ou un Danois, ou un Portugais, ou ceci, cela. Donc oui, j'ai tout un cheminement que j'aurais peut-être suivi dans la vie normale, mais moi j'ai eu l'accélérateur de 81, en fait. Et là, à toute vitesse, 81, 82, 83, tout ça, ça fait de moi durablement ce que je suis devenu après. Parce que j'étais, ce que je dis, je partageais les illusions, mais gentiment. J'ai 68, j'ai traité ça de façon souriante, quoi, un peu ironique, mais j'ai pas eu à me détacher du délire 68 ans, vous voyez. Mais oui, j'ai beaucoup changé, je suis pas du tout le même que j'étais certainement plus romantique, plus... voilà. Mais je crois que ça arrive à tout le monde, ça c'est la vie, la réalité. Mais je ne dis pas en termes de regrets, hein.
Non, non.
On a beaucoup plus de chances d'influencer quelque chose en étant...
Moi, vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble vous avoir vu changer, par exemple, sur l'OTAN. Est-ce que je me trompe si je dis que vous étiez contre la réintégration de la France dans le commandement intégré et qu'après avoir écrit ce rapport pour François Hollande, vous en avez déduit que finalement, la France tirait son épingle du jeu ?
Ah, mais je vous ai fait une réponse philosophique à la question sur le changement à travers toute une vie. Ce à quoi incite l'émission telle qu'elle est. Mais là, vous me posez une question précise, diplomatique. Alors, je pense là-dessus que si le général de Gaulle avait eu en face de lui Nixon et Kissinger, qu'il admirait énormément, même après, plus tard, qu'il ait dû quitter l'OTAN, il n'aurait pas besoin de quitter l'OTAN. Il aurait eu la réforme de l'OTAN, qu'il a demandé vainement à Eisenhower, à Kennedy, Johnson, etc. Bon. Donc, à l'origine, de Gaulle a raison. Il avait raison de s'opposer à la stratégie démente de la dite la riposte graduée. Après, les présidents successifs ont trouvé des arrangements pragmatiques. Ça marchait très bien. Donc en réalité, Nicolas Sarkozy n'avait pas besoin de revenir dans les organes militaires intégrés. Il l'a fait pour d'autres raisons, puisqu'il a cru sincèrement, et je crois qu'il s'est trompé, que ça allait débloquer la défense européenne. Il pensait que c'est ça qui faisait que les autres n'osaient pas s'engager avec nous. Pour des tas d'autres raisons, ils veulent pas de défense européenne, c'est trop cher, trop dangereux, trop, ça leur fiche la trouille. Bon. Quand François Hollande m'a posé la question, il m'a dit « est-ce qu'il faut ressortir ?» Il m'a pas dit « est-ce qu'il faut rentrer ?» La question se posait pas. Non, Sarkozy avait décidé de rentrer.
Je sais, oui.
Donc j'ai répondu, parce que le pragmatisme l'emporte chez moi, sur le reste, vous l'aurez compris. Non, on ne va pas ressortir, ce serait la danse de Saint-Guy. Bon. On va rester, mais j'avais ajouté deux choses. Il faut profiter de la relative ouverture d'Obama, premier mandat, qui n'est pas hostile, premier président, à ce qu'il y ait une affirmation européenne plus forte au sein de l'Alliance. Et deuxièmement, il faut absolument garder la maîtrise de notre propre pensée. C'est l'analyse stratégique et donc militaire. Donc là-dessus, non, je n'ai pas changé radicalement.
Merci, merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir passé cette semaine en notre compagnie.
Fin de cette rencontre d'Isabelle Lasserre avec Hubert Védrine. À voix nue, réalisation Julie Béressy, prise de son Sandrine Malon, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.